Bonjour et bienvenue sur Mediapart. À l'heure où nous enregistrons cette émission, Israël se cherche toujours un gouvernement. Cela fait 20 ans que la gauche n'en a pas dirigé, alors qu'elle fut hégémonique durant les premières décennies de l'État d'Israël. Alors, quelles sont les sources de cette éclipse? Cette éclipse est-elle irrémédiable? Ce sont les questions que nous allons aborder dans cet échange avec deux invités. À mes côtés en studio, Thomas Vescovi. Bonjour.
Bonjour, merci.
Alors, vous êtes chercheur indépendant, vous êtes auteur de l'échec d'une utopie que je tiens là, qui vient d'être publiée aux éditions de La Découverte. Et avec nous, en visio, depuis le nord de Tel Aviv, Denis Charbi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël et vous êtes l'auteur d'Israël et ses paradoxes qui a été publié au Cavalier Bleu il y a 2-3 ans. Je vais vous poser une première question toute simple à tous les deux pour qu'on campe un peu le décor avant qu'on fasse un peu plus d'histoire. Quand on parle de la gauche israélienne ou des gauches israéliennes, c'est celle dont vous diagnostiquez l'échec hein, dans votre ouvrage tout juste paru, ces gauches-là aujourd'hui, elles s'incarnent de quelle manière? De quoi on parle? Si on regarde les partis au Parlement, si on regarde les organisations les plus significatives en dehors du Parlement, de qui on parle? Peut-être que je commence avec vous, Thomas, et puis Denis, vous compléterez.
Alors, dans le livre, je ne parle pas forcément d'un échec des gauches, je parle plutôt d'un échec de l'utopie sioniste de gauche, qui, à mon sens, visait d'abord à créer un État pour les Juifs sur des bases, disons, socialisantes. Et aujourd'hui, l'État d'Israël tel qu'il est me paraît très éloigné des bases originelles de ce sionisme de gauche-là.
C'est un euphémisme.
Voilà, on y reviendra, je suppose. Mais en tout cas, vous avez actuellement en Israël, à mon sens, trois dynamiques à gauche et qui existaient déjà en 1948, quand Israël a été créé. On a une gauche qui est assez traditionnelle, liée notamment au Parti travailliste, où en fait on a plutôt une dominante nationaliste, plutôt que de gauche d'ailleurs, d'où le fait qu'il s'accommode assez bien avec des alliances vers le centre et vers même parfois la droite quand il le faut. On a une deuxième gauche que j'appelle être la gauche non sioniste, anticoloniale, qui historiquement a toujours existé en Israël, qui est liée au Parti communiste israélien, etc., qui a toujours été minoritaire, mais qui a eu une vraie force de dynamique. Et la troisième force qui est assez singulière et intéressante, dont je parle aussi dans le livre, c'est le parti Meretz, qui lui essaie un petit peu d'être à cheval entre les deux formations. C'est-à-dire d'être à la fois attaché au sionisme et en même temps d'essayer de développer un sionisme qui pourrait permettre à tous les habitants d'Israël, juifs comme non-juifs, de vivre à égalité ou en tout cas dans une forme de vivre ensemble. Maintenant, si vous me demandez où est-ce qu'on peut voir la gauche aujourd'hui en dehors de ce cadre politique et parlementaire, je pense qu'il y a depuis maintenant plusieurs mois en Israël une lutte qui se passe à Jérusalem, dans les quartiers de Sherjara et de Silwan, où vous avez dans ces quartiers palestiniens à peu près 300 personnes qui sont menacées d'expulsion de leur logement par la politique de colonisation, judaïsation, de Jérusalem, appelez ça comme vous voulez. Et on a une convergence de militants, à la fois gauche anticoloniale, mais aussi de la gauche plus traditionnelle, la paix maintenant, des gens sionistes de gauche, etc., qui se rejoignent dans ces manifestations-là, en considérant que là, il y a quand même une lutte à mener, symbolique, contre la politique menée par Israël de colonisation et d'expropriation. Je pense que là, on a un vrai point. Et puis, pour terminer, je pense que l'ensemble des ONG israéliennes, qui aujourd'hui constituent un petit peu les héritiers du camp de la paix, de Breaking the Silence à Betselem, en passant par Yesh Din, qui sont des organisations qui défendent les droits des Palestiniens, je pense qu'on a là beaucoup de militants qui se connaissent entre eux, évidemment, mais qui peuvent encore, à mon avis, incarner ce qu'on appelle une gauche en Israël.
Denis Charvis, je vous laisse compléter, amender, et je rajoute peut-être une question, puisque là, avec ce que vient de nous dire Thomas, on voit qu'il y a des enjeux de paix, on voit qu'il y a des enjeux sociaux, des enjeux démocratiques. En fait, peut-être que ça dépend aussi de quel enjeu on parle quand on décrit le camp de la gauche ou les frontières de la gauche.
Oui, effectivement. Je voudrais peut-être commencer par une réflexion sur le titre lui-même, l'échec d'une utopie. Le titre du livre de Thomas Vescovi, bien sûr. Pourquoi? Parce que je dirais que, mais pour le monde entier, avec cette division traditionnelle et classique entre la gauche et la droite, mais on pourrait, pour n'importe quelle gauche dans le monde, considérer que c'est l'échec d'une utopie, là où la droite, qui n'a pas d'utopie, est forcément triomphante. Donc je veux dire que, bien sûr, je ne remets pas en cause le titre et je ne remets pas en cause l'idée de l'échec. Je dis seulement qu'il faut le relativiser par rapport à un projet qui est beaucoup plus ambitieux que celui de la droite. Voilà, ça c'est pour le dire par rapport à toutes les gauches et toutes les droites dans le monde entier, y compris en Israël. Alors, si... La gauche israélienne sioniste. a échoué. Elle a échoué sur deux volets parmi les trois, qui sont bien sûr la paix avec les Palestiniens, le caractère socialiste, collectiviste, propriété, etc., collective. Là aussi, l'échec est patent. L'échec, la révision, tout simplement. Hein, c'est pas, ils sont revenus sur ces idées-là, au Parti travailliste notamment, et au Meretz également. Il y a quand même un aspect, et que Thomas Vescovi, dans son livre, explique bien, c'est le fait de créer un État et de le maintenir. Parce que après qu'on le qualifie de colonial, d'expansionniste, d'impérialiste, très bien, mais attendez, la gauche israélienne, sioniste, elle a un succès, à mon sens, énorme. C'est que c'est elle qui prend en main cet objectif-là et qui y parvient. Et j'insiste là-dessus, créer un État, c'est facile. C'est le maintenir. Et maintenir un État, c'est une fonction publique, une justice, une économie, une éducation, une santé. Alors, attention, je dis pas ça pour minimiser la portée de l'échec concernant la paix et concernant le côté socialiste. En même temps, et on l'a vu d'ailleurs dans la crise du Covid-19, c'est quand même les bases social-démocrates de l'État d'Israël, et on l'a vu dans la campagne de vaccination, qui ont permis finalement de bien tenir. On a voilà des fondements d'un État-providence qui tiennent assez bien en dépit du fait du néolibéralisme qui, effectivement, essaye de mordre et de gagner du terrain. Pour répondre à la question que vous avez posée, Fabien, je dirais que j'ajouterais, là je complète seulement, ce que j'appellerais, alors à côté de la gauche politique et de la gauche idéologique qui serait incarnée par les organisations, les associations, les militances actuelles, ce que j'appellerais une gauche sociologique, et qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est-à-dire tous ceux qui ont été à gauche, qui ont voté pour le Parti travailliste, qui se sont aujourd'hui dispersés dans les partis centristes, mais qui gardent encore ces références-là. Il faut bien comprendre, idéologiquement parlant, les pères du sionisme de gauche ont complètement disparu. En France, on connaît Jaurès, on connaît Blum. En Israël, Borochov, Sirkin, dont parle Thomas Vescovi dans son livre, mais c'est des noms de rue. C'est même pas des noms d'école d'ailleurs, c'est des noms de rue, et c'est tout juste si on sait à qui ils correspondent. Donc il y a un effondrement d'une culture de la gauche sioniste, mais sociologiquement, ils sont encore présents, même si entre-temps, pour terminer, ils sont devenus libéraux, mais libéraux sur le plan politique, c'est-à-dire l'attachement à un état de droit, et on le voit bien dans la lutte qui se mène actuellement entre le centre-gauche et la droite.
Oui, d'où l'opposition contre Benjamin Netanyahou qui incarne un aspect illibéral, et encore le terme
exactement.
Le terme est faible. Peut-être je poursuis un peu quand même sur ce tableau général parce que c'est le moment contemporain quand même, c'est important. Sur cette idée d'échec sur la paix, les aspects socialisants, on y viendra après. Mais cette idée d'échec sur la paix, là je retourne vers vous Thomas, c'est en fait d'ailleurs vous posez la question de façon un peu rhétorique dans le livre, vous demandez si la gauche sioniste sait encore parler de la paix parce qu'elle a été associé au camp de la paix, et c'est vrai qu'on a l'impression que ce soit que du côté de Avoda, le Parti travailliste, ou du côté du Meretz, en fait, on s'aperçoit qu'ils critiquent très très faiblement les politiques faites par la droite, y compris celles qui sont contraires au droit international. Donc on a l'impression que là, qu'il y a eu une sorte de normalisation, de consensus dans laquelle, là, pour le coup, la parole de la gauche institutionnelle, c'est totalement affaiblie, diluée, quoi.
On a aujourd'hui en Israël...
On a fait des papiers dans Mediapart sur la nouvelle figure du Parti travailliste, voilà, qui a beaucoup porté les enjeux féministes. Mm. Mais alors, sur cet aspect de la paix, on ne peut pas dire qu'elle soit très avant-gardiste.
Je voulais d'abord rappeler qu'on a en Israël à peu près 660 000, parfois on dit même 700 000, ça dépend du recensement, israéliens qui vivent dans les colonies de Cisjordanie. Si on prend une carte électorale, c'est assez intéressant à faire comme expérience, de la dernière élection de mars 2021, comme celle d'avant encore, on se rend compte que, électoralement, ce sont des gens qui votent très à droite. Idéologiquement, il y aurait des débats, mais en tout cas, quand ils vont poser leur voix dans l'urne, on voit bien qu'ils votent très à droite. Ce qui veut dire que la gauche israélienne, qui, à tort selon moi, mais continue à être identifiée comme le parti des négociations et de la relance du processus d'Oslo, etc., bref, quand elle démarre les élections, elle est quasiment déjà en retard de plusieurs centaines de milliers de voix. Sans caricaturer, on voit bien que là, il y a un rapport différent. Dans ce schéma-là, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement une gauche travailliste qui, déjà à l'époque d'Oslo et de Rabin, n'était pas forcément favorable à un démantèlement total. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pire que ça. Prenons un élément que j'ai rapporté dans un article récent, et notamment que Mediapart a également évoqué. Pendant la campagne électorale, Merav Mihaeli, la candidate du Parti travailliste, qui a fait revivre en grande partie cette organisation-là, est interrogée sur l'ouverture par la CPI d'une enquête sur les crimes commis dans les territoires palestiniens.
La Cour pénale internationale.
Voilà. Là où le Meretz, donc le leader du Meretz, Nitzan Horowitz, s'était félicité de la décision, parce qu'il y a quand même, au Meretz, encore une volonté de dénoncer la colonisation, l'occupation, etc. Merav Mihaeli répond que c'est une erreur, parce que l'armée israélienne n'a pas commis de crimes, et interrogée sur la colonisation, elle explique que la colonisation doit s'interrompre lorsqu'elle est éloignée des grands blocs de colonies, c'est-à-dire autour de Jérusalem et Bethléem, là où elle pourrait éventuellement se poursuivre parce que c'est des grands blocs et que ça fait en partie d'Israël. Là, on a vraiment une problématique centrale. Ça veut dire que pour un électeur israélien aujourd'hui, quand on voit les différents partis, on se rend compte que sur la question de la paix ou coloniale, il faut regarder vraiment dans la gauche la plus radicale, Meretz et la gauche anticoloniale, pour avoir un discours un petit peu alternatif ou hétérodoxe. Le reste va se rejoindre, alors non pas forcément avec au niveau annexion, mais va se rejoindre en tout cas autour de l'idée que la colonisation, c'est comme ça, c'est un fait, et on peut pas faire autrement.
Ouais. Denis Charbit, vous évoquez la gauche, vous dites anticoloniale, alors je sais pas comment, les termes sont un peu piégeux, mais donc la gauche non sioniste, etc. Cette fameuse gauche non sioniste, elle a été rassemblée dans la liste arabe unie en 2019, qui avait fait l'événement, à la fois à travers le nombre de députés qu'elle avait acquis, et puis à l'époque, du type d'alliance qu'elle était prête à envisager. Mais c'est une dynamique qui semble s'être quand même essoufflée. En tout cas, l'alliance a explosé dans les élections les plus récentes, celle de mars dernier, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors, là aussi, il faudrait peut-être rectifier. C'est pas le Parti communiste qui a fait 15 sièges, même en 2020. D'ailleurs, le parti ne porte plus le sigle communiste. Donc, vous voyez que l'effondrement, il n'est pas que du côté sioniste, il est aussi du côté non sioniste, qui représente les Arabes israéliens. Il y a peut-être que les quelques 50 000 électeurs juifs qui votent pour ce parti-là, qui sont encore communistes et qui ont encore le drapeau rouge et l'espoir international. Mais ce n'est pas le cas de la liste arabe unifiée, qui effectivement à une composante nationaliste qu'on peut absolument pas considérer comme étant de gauche. Elle n'est pas forcément de droite non plus, mais enfin, je veux dire, c'est la question nationaliste palestinienne qui la préoccupe. Il y a la faction de Ahmed Tibi qui est favorable à une intégration dans le jeu politique israélien. Et puis, il y a le parti islamiste qui lui non plus peut être considéré comme être de gauche et qui de surcroît a quitté cette liste arabe unifiée pour faire cavalier seul. Donc c'est vrai que si c'est la dimension de la gauche et son essor ou son déclin qu'on interroge, il faut aller le regarder tant du côté des sionistes que des non-sionistes. Je veux dire, et c'est pas parce qu'ils ont le même problème que la gauche sioniste que ça va mieux, mais ça montre bien que ce qui est vraiment en crise, c'est pas le discours national, qu'il soit palestinien ou qu'il soit juif, c'est effectivement le discours socialiste pur et dur, mais cet effondrement, on le voit un petit peu partout. Alors à ceci près que chez les travaillistes n'ont jamais été des socialistes, alors d'abord jamais léninistes et encore moins staliniens, ça c'était le MAPAM, ils ont été sociodémocrates, ils étaient dans l'international socialiste. Bon, ils n'ont jamais été, ils ont mis en place, comme je disais tout à l'heure, les bases de l'État-providence, mais c'est vrai qu'ils se sont convertis via la mondialisation au libéralisme économique, tout simplement parce que ce sont les classes moyennes. Vous parliez, Thomas, à juste titre, du fait que dans les implantations, ce qui montre déjà un premier clivage, ce qui montre que ça existe encore. Comment, si effectivement la gauche sioniste était aussi coloniale ou aussi peu militante sur la cause de la paix, comme vous l'avez dit, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à avoir des voix dans les implantations? Comment se fait-il qu'il y ait un désert? Les travaillistes n'obtiennent pas plus de 1, 2, 3, 4% des voix dans les implantations. C'est bien qu'on leur prête des intentions. Et pour répondre sur la question de Merav Mihaeli et ce discours-là, là je le fais en analyste, c'est pas une question de subjectivité de citoyen. Dans la mesure où l'hégémonie est bien celle de la droite, Là-dessus, c'est incontestable. C'est-à-dire que pour Merav Mikhaeli, et qu'on est en plus, pardon, de surcroît, dans un blocage, il y a en gros, du centre jusqu'aux Arabes, il y a 48-49% d'électeurs et 51-52% du côté de la droite avec les partis orthodoxes. Donc, le Meretz dit, moi, j'ai aucune chance d'avoir des voix, de piquer des voix à droite. Donc, je vais dire, je suis pour la haie, je soutiens, je suis contre la colonisation, etc. Là où les travaillistes se disent, comme on nous soupçonne de pas être de bons patriotes, eh bien, bien entendu que je vais pas dire que je suis pour la haie, mais je vais dire que c'est fatal que ça puisse arriver. Et c'est vrai qu'elle va dire, et j'ai lu une interview dans le Haaretz dans laquelle elle dit, c'est vrai que je n'emploie pas le mot occupation, parce que moi, ce que je veux, c'est convaincre qu'on vote pour moi. Alors, c'est du pragmatisme électoral qui vaut pas grand chose, qui n'a pas permis à la gauche de mieux s'en sortir. Mais ce que je peux dire, oui, la gauche sioniste, incarnée par le Parti travailliste, pratique un double langage. Donnez-moi une réunion de gens du Parti travailliste entre eux et ils vont vous dire occupation, démantèlement des implantations, mettez-les dans un débat public. Alors là, effectivement, ils vont jouer la carte légitimiste en quelque sorte et ça traduit ou ça trahit effectivement, je dirais, la victoire de Netanyahou qui a réussi à faire de la sécurité d'Israël la première chose à laquelle on se réfère et non plus de la paix avec les Palestiniens.
Alors, on va plonger un peu dans l'histoire pour justement comprendre les dynamiques du déclin dont on parle, à la fois sur certains projets et à la fois en termes électoraux, numériques, si j'ose dire. Alors, au début de votre ouvrage, Thomas Vescovi, on va voir le graphique s'afficher. Vous montrez le paysage de la Knesset, hein, donc la chambre parlementaire israélienne en 1949. Donc, on voit, c'est des camemberts avec des points, hein, on voit qu'elle est dominée de manière écrasante par la gauche sioniste, et vous mettez en contraste la Knesset de mars 2020, et donc ça change pas beaucoup avec les dernières élections qu'il y a eu, où cette gauche, comme le disait Denis à l'instant, est réduite à portions congrues vis-à-vis du centre et surtout vis-à-vis du grand bloc de droite avec différentes versions, hein, nationalistes, laïques, religieuses. Avant qu'on parle des causes, vraiment d'un point de vue purement descriptif, quels ont été les moments clés justement de ce déclin en nombre de voix, en nombre de sièges? C'est quoi les repères chronologiques qu'on doit avoir en tête?
Je pense qu'il faut d'abord commencer par rappeler que la société israélienne de 48-49 n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Il y a eu des profondes transformations. D'abord, j'en vois deux. C'est deux vagues migratoires qui ont, à mon avis, amené aussi un profond changement sociologique. D'abord, c'est l'arrivée des Juifs orientaux dans les années 50-60, des centaines de milliers qui, eux, ont une conception de l'identité juive qui diffère beaucoup de celle des Juifs européens ashkénazes qui ont, entre guillemets, fondé l'État dans cette gauche-là. Eux, ils ont une idée du judaïsme beaucoup plus pratiquant, beaucoup plus religieux, et quand ils arrivent en Israël, ils ne comprennent pas que l'État dans lequel ils arrivent est un État où la synagogue est, entre guillemets, séparée de l'État, si vous voulez. Pour eux, l'État doit être sur des bases religieuses. Donc, il y a déjà une première division avec cette gauche sioniste. La deuxième vague migratoire, c'est années 90, les juifs d'ex-URSS, qui aujourd'hui...
Évidemment, c'est le moment où s'effondre le bloc soviétique.
Voilà, qui aujourd'hui constituent parmi la population juive israélienne la plus nombreuse, et eux, ils ne sont pas religieux, d'ailleurs ils défendent plutôt un État, disons, plutôt laïque, mais ils défendent un nationalisme assez, j'ai envie de dire, exclusif, très identitaire, et surtout où les valeurs de gauche, socialisantes si on veut, leur paraissent complètement dépassées. Ouais. Donc là, on a une première division. La deuxième, à mon avis, c'est en 67, la colonisation et la conquête des terres de Cisjordanie et de Gaza, donc les 22% restants de la Palestine, va engager une dynamique libérale en Israël, c'est-à-dire que d'abord, Israël obtient des terres avec ses ressources, avec une main-d'œuvre arabe-palestinienne malléable et à bon marché, et surtout le changement diplomatique où les États-Unis viennent remplacer la France en tant que principal allié, fait entrer Israël dans l'économie de marché progressivement. Et tout ça, si vous voulez, va bouleverser Israël au point dans les années 70 puis 80, à ce qu'on a en Israël d'abord l'arrivée de la droite en 77, qui va profiter et engager encore plus de colonisation, engage encore plus de privatisation, ce que la gauche va poursuivre dans les années 80, si bien qu'Israël va se retrouver dans un État qui est, un, profondément libéral, et donc inégalitaire, et également où aujourd'hui la division centrale n'est pas sur un État, si vous voulez, de gauche ou de droite, ou un État qui, avec les Palestiniens ou sans les Palestiniens, c'est plutôt la question de quel État juif on veut, un État plutôt côté laïque ou un État plutôt religieux, nationaliste. Et là, on a vraiment, je pense, une nouvelle division qui explique en partie pourquoi la gauche ne joue plus qu'un rôle, je dirais, de variable d'ajustement gouvernemental. Ils peuvent juste soutenir le centre et pas faire plus parce que quand l'électorat juif libéral, laïque vient pour voter, eh bien, ils voient dans les candidats du centre davantage de capacité à articuler à la fois cette défense entre guillemets d'une laïcité et également les idées libérales, ultralibérales de l'économie de marché.
Ouais, bon, en fait, on est déjà rentré dans les causes de ce déclin, mais Denis Charby, je me tourne vers vous juste pour une confirmation. C'est 77, c'est vraiment le tournant. En fait, ça marque vraiment un avant, un après, quoi.
Alors, oui et non. Oui, parce que c'est la première fois. Non, oui, parce que c'est la première fois qu'on pratique l'alternance. Donc, en ce sens, c'est un événement politique très significatif. C'est 29 ans de pouvoir travailliste
sans interruption.
Continu. Voilà. Mais je pense que le déclin, parce que ce qu'il faut quand même préciser, de 77 à 99, c'est des alternances systématiques. Mmh. C'est une fois la gauche, une fois la droite. Donc,
oui, la gauche. C'est pas du tout le paysage qu'on a aujourd'hui. Ouais.
Voilà. Alors que si vous parlez du déclin, c'est-à-dire quand on arrive au-dessous de 10% ou 15% de l'électorat, là, clairement, c'est l'échec du processus de paix, c'est l'échec du sommet de Camp David en 2000. La gauche sioniste s'est complètement investie, a été identifiée à la cause de la paix, et la gauche aurait pu non seulement survivre, mais je dirais triompher si un accord de paix avait été signé. Je ne rentre pas dans la discussion à cause de qui,
peut-être
des deux parties, Arafat ou Barak, il n'y a pas eu d'accord de paix, mais c'est cet échec du processus d'Oslo qui fait que désormais, c'est la droite qui a le vent en poupe. Nous étions contre et nous avions raison.
Ouais, Thomas Vescovi, vous vouliez réagir.
Juste, il y a, je pense, un moment qui est aussi décisif, évidemment, je voulais revenir sur Oslo là-dessus, mais c'est surtout qu'on avait parlé de Ehud Barak et Arafat au sommet de Camp David en 2000. Il y a quand même ce moment, à mon avis, qui me semble déterminant, qui est au lendemain de l'échec du sommet de Camp David, lorsque on a Ehud Barak, qui est le Premier ministre travailliste et donc leader de ce parti-là, qui affirme qu'il n'y a plus de partenaire pour la paix, côté palestinien. Je pense que ce moment est décisif pour une raison, c'est qu'il faut imaginer que le parti travailliste, sans avoir été forcément un parti pacifique, mais en tout cas c'est un parti qui, dans les années 80, et surtout fin 80, début 90, avec la première intifada, s'est recomposé politiquement sur le camp de la paix, a compris qu'il y avait là un enjeu électoral fondamental. Il a donc permis, si vous voulez, de légitimer toutes ces initiatives qui étaient apparues dans les sociétés israéliennes et palestiniennes de discussion, d'échange, de communication pour amener à une espèce de pacification. Lorsque vous avez le leader de ce parti-là, qui, pendant presque une décennie, a affronté la droite avec Rabin pour dire que non, on peut aller à la paix, etc., que la droite expliquait que non, c'est pas possible, en face, c'est que des terroristes, etc. Quand le leader de ce parti-là, en 2000, affirme qu'il n'y a plus de partenaire pour la paix, ça crée forcément une synergie au sein des Israéliens, ceux qui étaient les plus hésitants et qui disaient non, mais on veut quand même voter pour eux parce qu'on veut tenter la paix, que bah, finalement, voilà. Là, c'est la fin. Et n'oublions pas que deux mois après Camp David, on a le déclenchement de la seconde intifada, qui va être beaucoup plus traumatisante pour les deux sociétés, israéliennes comme palestiniennes, et va, à mon avis, aussi amener à un effondrement et à l'arrivée de nouveaux leaders. Sharon, à mon avis, en est la bonne incarnation, et aujourd'hui aussi Netanyahou, qui estime maintenant que finalement, la paix étant impossible, il faut une séparation, non plus à l'amiable comme à l'époque de Rabin, mais plutôt forcée et uniquement sur la base des intérêts israéliens. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose de nouveau.
Alors, on va maintenant poser la question un peu frontalement, jusqu'à quel point le verre était dans le fruit, en quelque sorte. C'est-à-dire ce fameux terme qu'on a évoqué, ensemble, de sionisme de gauche ou de gauche sioniste. Le préfacier de votre livre, Michel Warshavsky, qui est un militant pacifiste israélien, doute dans sa préface de la réalité de gauche du parti travailliste, comme dans un écho aux thèses d'un célèbre historien, donc on va voir son portrait s'afficher, Zev Sternet, qui a expliqué dans ses travaux que chez les sionistes socialistes, le projet d'édifier un État-nation a littéralement pris le dessus, même écrasé le projet socialiste. C'est quelque chose que vous discutez, Denis Charby, dans un article que vous aviez publié dans la revue Cité. Et vous sembliez contester dans cet article, hein, tout en nuance, qu'il y ait forcément une contradiction dans les termes, quoi. En fait, moi, ce que j'ai compris, en gros, en vous lisant, c'est que, après tout, un nationalisme de gauche pouvait exister et que le sionisme de gauche a représenté ça, quoi, que tout n'était pas écrit.
Moi, je vais répondre de manière tout à fait personnelle. Je suis sioniste jusqu'au bout des ongles et je suis contre l'occupation jusqu'au bout des ongles. Et personne ne parviendra à me prouver que je ne peux pas être l'un et l'autre. Alors qu'après, alors il faut savoir de quoi on discute. C'est-à-dire que bien sûr qu'entre projet socialiste et projet national, il y a des contradictions. Mais je vais vous dire, tant mieux. Moi, j'aime pas les projets qui sont trop cohérents idéologiquement. Les projets purs, en général, ils vont pas très loin. Bien sûr qu'il y a des contradictions. Elles sont fécondes, elles sont fertiles. Et c'est vrai que dans l'histoire d'Israël, bah, il faudra attendre effectivement peut-être 50 ans, en quelque sorte, concernant la question palestinienne, hein, pour que la gauche, fasse, en quelque sorte, le procès, ou en tout cas l'analyse sévère de ce qui s'est passé depuis un demi-siècle, et dise, on ne pouvait pas ne pas bâtir Israël compte tenu du refus des Palestiniens d'accepter le plan de partage, sur lequel d'ailleurs Thomas Vescovi, vous l'escamotez, hein, vous n'en parlez, il n'y a pas une ligne là-dessus, et c'est pourtant capital, parce que si le 29 novembre 47 la partie arabe était d'accord, on n'en serait pas là. Mais après, bien entendu, que c'est Israël qui porte la responsabilité. Je dis toujours, les Palestiniens escamotent le refus, et nous on escamote les conséquences. Les conséquences, effectivement, les réfugiés palestiniens. Donc c'est vrai que il y a une période, on va dire, de glaciation. Et là où, comment dirais-je, 1967, c'est bien sûr, là, à ce moment-là, le destin d'Israël se divise en deux. C'est soit on va vers l'annexion et en tout cas le maintien de la présence militaire israélienne dans les territoires occupés, et c'est ce qui se passe actuellement à l'exception de la bande de Gaza, même si ça pose d'autres problèmes pour d'autres raisons. Mais la deuxième possibilité, c'est de trouver enfin les bases d'une réparation de l'injustice qui s'est faite en 1948-49 avec le fait que l'État arabe de Palestine n'est pas né. Oslo, c'était ça, d'une certaine manière. C'était résoudre par 67 le conflit de 1948. Sur la question de Sternel, là, Sternel a raison. La seule chose, la seule nuance que j'ai, c'est que entre le projet national et le projet social, c'est sûr que le projet national est plus important, mais encore une fois, le projet national, c'est pas tellement bâtir seulement une nation. Et je reviens à ce que je disais d'entrée de jeu, c'est bâtir un État. Et ça, on peut pas regarder ça comme si c'était rien. Prenez tous les États qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que, en dépit de toutes les fautes et tous les dérives non démocratiques de l'État d'Israël à cause de l'occupation, mais en termes de démocratie israélienne faite avec des gens qui ne l'étaient pas, ni quand ils viennent du Maghreb, ni quand ils viennent d'Europe, ni même les Arabes de Palestine, aucun n'a été formé à Oxford et à Paris. Ils n'ont pas appris la Troisième République, ni la Révolution française. Et pourtant, l'État s'est maintenu, et même si je suis d'accord sur le diagnostic de Sternel, je n'y ajouterai pas cette nuance critique, parce que je pense que construire un État, édifier un État, bah, c'est pas rien, et le maintenir sans qu'il devienne un État en faillite, regardez tous les nationalismes autour, les dérives militaires avec l'importance de la dimension de la sécurité, je veux dire, ça fait des décennies que l'armée aurait pu prendre le pouvoir en Israël, et pourtant ça n'a pas été le cas. Alors c'est pétri de contradictions, et le bilan est très problématique. Mais c'est ça la vie politique, malheureusement.
Thomas, je vous laisse réagir peut-être à cette question.
En fait, l'idée centrale dans le livre que j'essaie d'expliquer, c'est que on peut avoir un débat pendant des temps indéfinis sur peut-on être sioniste et de gauche. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a eu des gens qui ont cru à ce projet sioniste de gauche, qui y croient encore aujourd'hui, et c'est ça qui m'a intéressé. C'est comment est-ce qu'ils ont essayé d'articuler ces deux choses-là et de faire de la politique. Sauf que dans les années avant même la création d'Israël, l'année 1920-1930, on se rend compte qu'il y a dans la terre de Palestine, au sein des gauches juives, de profonds débats sur le fait que est-ce qu'on peut vraiment être de gauche quand les alliances politiques concrètes sont uniquement basées sur des alliances identitaires et communautaires, et qu'on refuse entre guillemets des alliances qui dépassent ce clivage-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mouvement binationaliste parmi ce mouvement-là juif en Palestine, donc avant la création d'Israël, qui a été assez fort, assez puissant, qui essayait en tout cas d'expliquer que on peut créer un État entre guillemets en commun, ou en tout cas en prenant les aspirations de chacun. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que on a beau être le plus fidèle attaché à la gauche, quand on arrive en Palestine avec un projet de créer un État sur une terre où concrètement il y a un peuple qui vit là, votre projet il est intrinsèquement colonial. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, à un moment ou l'autre ça finit par ça. Denis Charbit m'explique que dans le livre je ne parle pas du refus arabe. J'en parle mais j'explique simplement voilà pourquoi est-ce qu'il y a eu un refus. Il ne faut pas oublier qu'en 1947, trois ans encore auparavant, il y a toujours un mouvement binationaliste qui existe parmi les Juifs en Palestine. En 1947, l'ONU décide de partager la terre de Palestine en deux et de donner à un État juif 55% des terres, là où dans 60% des districts de Palestine, les Palestiniens, les Arabes sont majoritaires. Donc pour les Palestiniens, ça n'a aucun sens ce partage-là. Maintenant, on peut débattre indéfiniment également sur la question du partage. Ce que je voudrais en tout cas expliquer, c'est qu'il y a bien eu des géants sionistes de gauche, et il y en a encore aujourd'hui qui croient profondément à ce mouvement-là. Ce que moi j'essaie d'expliquer, c'est qu'à mon avis, on a bien vu qu'à chaque moment de tension politique, 67, 48, et même avant 1920-1930, quand il y avait des révoltes arabes, des choses qui ont été très sanglantes, très meurtrières, on voit qu'à chaque fois, la dynamique commune de cette gauche sioniste-là, c'est pas les valeurs de gauche, de justice sociale, d'alliance de classe sociale, c'est à chaque fois une alliance nationaliste, avec la droite si possible quand il le faut, et surtout, ça fait une dérive progressive qui fait que Ziv Sternel explique très bien, la gauche sioniste, c'est d'abord un nationalisme qui est enrobé de socialisme ou de valeurs socialisantes. Et ça, à mon avis, c'est encore aujourd'hui assez prégnant en Israël.
Alors, on comprend bien les deux.
Je suis d'accord là-dessus. Je voulais simplement signaler une convergence. Bien sûr, c'est une lutte entre deux nations avant d'être une lutte entre des classes sociales. C'est clair. Là-dessus, le primat de l'un sur l'autre ne me surprend pas.
Oui, alors,
on peut le déplorer, mais pour moi, c'est clair.
Non, mais juste quand même, on a compris, je pense, les deux points de vue. Denis Charbit, je vous laisse réagir quand même sur ce que vient de dire Thomas, parce que c'est un autre point que je voulais aborder, sur la dimension intrinsèquement coloniale ou pas du sionisme et du sionisme de gauche. Parce que c'est une autre question que vous avez traitée dans un autre article, pour le coup, dans 20e siècle. Est-ce que pour vous, parce qu'effectivement, il y a la question des colonies actuelles, le projet né à l'époque où la Palestine est sous mandat britannique, donc une autre forme de colonisation. Donc est-ce que le rapport du sionisme au colonialisme est encore une fois intrinsèque ou pas?
C'est une question difficile, c'est facile, je ne veux pas faire de réponse idéologique, c'est une vraie question d'histoire. Bien sûr qu'il y a, à partir du moment où il y a une rencontre entre une population de l'Est, de l'Europe orientale, hein, c'est pas de l'Europe occidentale, et une population autochtone orientale, on va décréter que les conditions objectives sont là pour parler d'un projet colonial. À ceci près que moi, je suis, si j'ose dire, le disciple d'Albert Mémy, et pour moi, le projet colonial, c'est pas l'exploitation, etc., puisque là, en l'occurrence, les sionistes ont dit « Non, on va pas vous exploiter, on va essayer de nous constituer une base ». Je dirais deux choses. La première, une situation coloniale, c'est une situation où il est très clair que le pouvoir est fait pour favoriser une minorité aux dépens d'une majorité. Et ça s'applique parfaitement à la Cisjordanie. L'armée israélienne n'est pas là pour protéger la majorité palestinienne. Elle est là pour protéger la minorité juive. En Israël même, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, vous me dites, mais historiquement, il faut bien comprendre une chose. Et Thomas Vescovi le dit d'ailleurs. Le sionisme, et c'est ça que les antisionistes ont du mal à comprendre ou ne veulent pas entendre. Le sionisme est un discours d'émancipation. C'est l'émancipation des Juifs de leurs conditions minoritaires infrapolitiques. Alors, effectivement, le drame ou la tragédie,
je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, là, ce projet-là naît dans des territoires européens, slaves, etc., où les Juifs sont persécutés. Hein, voilà.
Exactement, ils n'acceptent pas la condition du citoyen à la française depuis 89, etc. Et c'est là qu'il y a 80% des Juifs. Hein. Les Juifs ne sont pas en Europe occidentale, hein, à cette époque, un peu en Allemagne tout au plus. Donc c'est un projet d'émancipation. Et ça, cette dimension, je veux dire, quand bien même on peut accrocher la dimension coloniale au sionisme. Mais on ne peut pas faire abstraction de cette dimension de libération. Alors, elle s'est faite aux dépens d'un autre peuple pour lequel, qui estimait que, en disant colonial, bien sûr, c'est un gros mot, en quelque sorte, qu'on plaque sur le sionisme. Mais je dirais que, il était inévitable qu'il y ait cette confrontation. Et ce que disait Thomas Vescovi de ce projet binational, alors d'abord il n'était pas puissant, là je conteste, il n'était pas puissant, il avait une influence politique parce qu'il était porté par des élites intellectuelles, par Martin Buber, par Gershon Scholem, par des sommités, les grandes autorités de l'université hébraïque de Jérusalem des années 30. Mais le problème du binationalisme, c'est quoi? Et vous le dites d'ailleurs très honnêtement. Ben c'est quoi? C'est qu'il n'a pas trouvé de partenaire du côté arabe. Vous le dites, vous le racontez, et tant mieux. Le premier leader du binationalisme arabe est assassiné quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Et pourquoi? Mais pas parce que les Arabes ou les Juifs, mais parce qu'on est dans des dynamiques nationales. Alors, la question du rapport entre nationalisme et colonialisme dans ce cas-là, oui, mais je dirais que c'est propre de tous les nationalismes européens qui ont au départ une dimension ethnique, donc non globalisante, mais qui, au fur et à mesure de leur évolution politique, eh bien, se débarrassent de leur aimant ethnique pour devenir un projet plus universel. Mais ça, qu'est-ce qui a empêché que ça puisse se faire ici? C'est d'une part le conflit, évidemment, mais je dirais aussi le fait qu'on n'est pas dans un nationalisme civique à la française ou à l'européenne occidentale, mais d'un nationalisme ethnique. Il y a une chose, faut bien le comprendre. C'est vrai que le nationalisme juif n'est pas inclusif. Et vous le dites tout d'emblée, c'est un nationaliste qui ne défend que les juifs. Mais le nationalisme palestinien, il défend autre chose que les palestiniens. Et on est dans un nationalisme, effectivement, qui fait que, regardez, considérez l'évolution, par exemple, vous n'en parlez pas assez, je pense, l'évolution de la population, des 156 000 Arabes qui sont présents dans le territoire israélien en 1949, dans le recensement qui est fait à ce moment-là, aujourd'hui ils sont près de 1 800 000, ils sont près de 20% de la population israélienne. À l'époque, ils étaient à peine 15%, et donc malgré l'afflux de la migration, ils passent de 156 000 à près de 2 millions. Mais regardez l'évolution en termes économiques, après toutes les inégalités, les discriminations, l'administration militaire. L'avantage de la démocratie, et là c'est plus la gauche israélienne, c'est que ça bouge et que c'est dynamique. Il peut y avoir des régressions, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais il y a des dynamiques sociales qui échappent au pouvoir politique.
On va poursuivre peut-être, parce que le temps file, je suis le gardien du temps.
J'aurais bien aimé répondre quand même.
Alors, je vous laisserai brièvement si possible, parce que j'aimerais qu'on revienne sur la situation contemporaine.
Je vais essayer d'être bref. Je pense qu'il y a, une vraie analyse qui est de dire qu'effectivement le sionisme à la base est un projet d'émancipation, mais comme je le dis également dans le livre, qui a une dynamique profondément aussi coloniale. Et j'insiste sur ça. Le projet sioniste ne peut pas se réaliser en Palestine sans son caractère colonial. On ne peut pas créer un État pour les Juifs en Palestine si on n'expulse pas, si on ne transfère pas une population autochtone ailleurs que ça. On peut maintenant débattre indéfiniment aussi de la démocratie, de l'État juif ou démocratique. Il y a, à mon avis, un consensus qui peut s'affirmer là, qui est que le projet sioniste, quoi qu'il arrive, avait pour objectif de donner un État aux Juifs ou à une population juive, et qu'elle en soit les gardiens et les détenteurs du pouvoir politique. Jusqu'à aujourd'hui, on a, gauche comme droite en Israël, défendu ce projet-là, avec des dynamiques différentes. On est en 2021, et vous avez, en un an, deux rapports qui sont sortis, et qui montrent, au-delà du discours qu'on a intellectuel, que concrètement, le premier est celui de B'Tselem, le deuxième est celui de Human Rights Watch, depuis maintenant une semaine qui est sorti, qui montre que, de la Méditerranée au fleuve Jourdain, vous avez à des degrés complètement différents, mais une réalité, qui est qu'on a un pouvoir politique qui est dominé par une ethnie majoritaire, ou à égal en tout cas, juive, et qui profite de ce statut politique pour dominer le terrain, le territoire et le jeu politique. Là, on a à mon avis un statut qui est assez intéressant de comprendre, qu'en fait, à mon sens, c'est la suite logique du mouvement sioniste, parce qu'il ne pouvait pas aboutir, à mon avis, sur autre chose que cette domination-là.
Je crois qu'on a les deux points de vue ont été exposés, mais alors jusqu'à quel point cette situation est figée, jusqu'à quel point elle pourrait évoluer, c'est ce vers quoi je voulais aller en revenant sur les principales causes du déclin. On va pas les redévelopper parce qu'en fait elles ont déjà été avancées. Il y a des raisons démographiques que vous avez indiquées. Il y a la question de la paix impossible. Il y a la question au fond de l'abandon, l'abandon relatif quoi, des préoccupations les plus socialisantes au profit de la révolution néolibérale. Des années 80. Mais ce que j'aimerais peut-être là, encore une fois, assez brièvement chacun, c'est peut-être de hiérarchiser ces causes. Parce que les causes les plus liées à la question nationale dont on vient de parler, pour le coup, elles sont très spécifiques au cas israélien. Mais alors, les autres causes, et vous le disiez un peu tout à l'heure, Denis Charby, que ce soit les causes sociales, notamment, après tout, elles valent pour d'autres gauches ailleurs qu'en Israël. Donc, comment est-ce que vous hiérarchiserez l'importance de ces facteurs de déclin qui arrivent au fait que la gauche institutionnelle aujourd'hui pèse plus grand-chose dans le paysage politique. Je vous redonne la parole, Thomas, là-dessus.
Mais je pense d'abord qu'effectivement, il y a ce que j'appelle une hiérarchie de valeurs qui a complètement été bouleversée en Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez, par exemple, que ce soit même les classes les plus populaires, j'en parle assez dans le livre, ouais. les moins favorisés par cet État libéral, on voit que dans la hiérarchie de valeurs, c'est pas la défense des ONG, c'est pas la défense des droits des LGBT qui va arriver en premier, c'est en général la défense du droit pour les Juifs d'avoir un État et que celui-ci reste un État juif. Et donc aussi un État qui peut être, entre guillemets, davantage religieux, en tout cas où la religion aurait une place assez importante. Et sur ça, à mon avis, la gauche israélienne a de plus en plus de mal à le comprendre. J'aimerais revenir simplement brièvement sur la question des Palestiniens d'Israël, les Arabes israéliens, comme il a été mentionné. On a effectivement une vraie évolution de leur part, où on a d'abord eu pendant de nombreuses années une volonté de ne pas s'impliquer politiquement en Israël, et aujourd'hui une volonté au contraire d'être beaucoup plus impliqué, et encore plus depuis maintenant environ 10 à 15 ans, une volonté de s'impliquer pour essayer de converger avec cette gauche, disons, sioniste israélienne, pour essayer de faire un poids davantage important. Là où, à mon avis, il peut y avoir une divergence, et elle a déjà été marquée, j'aimerais juste y revenir brièvement, sur la question du nationalisme. C'est-à-dire que je pense que on ne peut pas comprendre les choses si on part du principe qu'il y a deux nationalismes qui s'affrontent et qui sont quasiment égales. À mon avis, le nationalisme issu du sionisme est un nationalisme que j'appelle exclusif parce qu'il estimait devoir créer un État uniquement pour une population juive qui pouvait tolérer des non-juifs à condition qu'ils restent évidemment minoritaires et qu'ils aient un poids politique assez divergent. Je renvoie encore une fois au rapport de B'Tselem, l'ONG israélienne, qui explique qu'il y a un problème en Israël, c'est que certes, ces populations-là, 20% de la population israélienne, a le droit de vote, a des droits qui sont incontestables, même supérieurs sûrement en termes de qualité de vie à ce que des Palestiniens peuvent connaître dans les pays arabes voisins, mais qui malheureusement sont confrontés quand même à un État où ils n'ont pas forcément de dynamique possible en termes d'égalité politique. Et ça, c'est important. Là où on a aujourd'hui un vrai débat de fond à voir, c'est qu'à l'inverse, les nationalistes, que ce soit même au sein du Balad, le fameux parti nationaliste arabe, le statut de coloniser ou en tout cas d'opprimer de cette population-là fait que, à mon sens, leur nationalisme ne prévoit pas de créer un État exclusif que pour les Arabes. Donc, il y a d'abord une dynamique qui est de créer un État où les droits nationaux seraient considérés comme aussi justes que ceux de la population juive en face.
C'est la question de l'État binational, en fait.
Binational, ou en tout cas de comprendre que c'est pas simplement deux nationalismes qui s'affrontent, parce que dans ce cas-là, on reviendrait à Oslo. On pourrait dire, bah oui, on peut négocier parce qu'en fait, on met les extrémistes des deux côtés à part et les modérés puissent discuter.
Pour faire la solution à deux États.
Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a, au fond, derrière, un statut qui est inégal. Et c'est ça aussi, à mon avis, que la gauche sioniste n'a pas compris à Oslo, c'est que Arafat et Rabin ne négocient pas d'égal à égal. Pour les Israéliens, il y a le temps. Pour les Palestiniens, il y a une urgence politique qui est de maintenir au moins une souveraineté sur cette terre qui est chaque jour un peu plus expropriée. Et là, du coup, à mon avis, on a une question fondamentale aussi à se poser. C'est est-ce que si on reste dans le statut de deux nationalismes qui s'affrontent, est-ce qu'on peut vraiment comprendre les dynamiques actuelles?
Très bien. Alors, je donne la parole à Denis Charby. D'après votre réponse, en fait, vous répondez en quelque sorte à ma question en disant que finalement, c'est la question nationale qui prime tout le reste et qui explique les impasses dans lesquelles se trouve la gauche aujourd'hui, en tout cas la gauche sioniste. Denis Charby, est-ce que vous partagez ça un peu ou prou, malgré les désaccords qu'on a bien compris?
Non, je partage, enfin, je considère effectivement que la question primordiale est bien celle de la paix israélo-palestinienne, de la réconciliation israélo-palestinienne. La question sociale, bah, là, je dirais qu'il faut faire de la sociologie électorale. Le désert électoral du parti travailliste aujourd'hui, et même du Meretz, c'est qu'ils ne sont soutenus que par les classes moyennes, ouais. Ni par les religieux, ni par les Russes, ni par les orientaux.
Ouais. Mais en ce sens, ça fait écho à des dynamiques européennes où on parle tout le temps de ce décrochage avec les milieux populaires.
On pourrait faire une deuxième intervention sur les comparaisons entre les gauches européennes et israéliennes, c'est clair. Et notamment les questions coloniales et décoloniales, etc. Je veux dire, et pourtant la France est une république et Israël n'est plus une république et pourtant les mêmes débats existent. Il y a une dimension qu'il faut prendre en compte et qu'on n'oublie pas, et je le rappelle. La dissociation, et on le voit surtout en ce moment, on a 2 ans de crise politique et on a une société civile très dynamique. C'est vrai qu'à la Knesset, si vous enregistriez tous les débats de la Knesset, vous direz « tout ce dont on parle aujourd'hui, on n'en parle jamais ». Mais allez voir les pages idées de nos quotidiens et vous allez voir que c'est le sujet principal. Allez dans les cours de sociologie, d'histoire en Israël, c'est le sujet principal. C'est-à-dire, il faut pas croire que l'évacuation électorale de ce problème veut dire, c'est là que parfois on dit mais pourquoi on est si mal compris? Parce que nous on n'arrête pas d'en parler. Ne croyez pas que parce qu'il y a un débat aujourd'hui à Mediapart, on dit waouh, ce débat-là il est pas possible en Israël. Mais il est tous les jours. Il y a un article sur la Nakba aujourd'hui par le rédacteur en chef du Haaretz en disant il faut que dans les écoles on parle de l'exode palestinien, des causes, parce qu'on en paye encore les conséquences. Voilà, je vous ai cité
l'exode
le journal.
De 48. Hein,
Exactement, la guerre de 48, bien entendu. Maintenant, sur la question, est-ce que l'avenir passe par le fait que la gauche sioniste s'émancipe de son sionisme? C'est une possibilité. Beaucoup de gens qui étaient à gauche, Guidon Levy était un membre du Parti travailliste, le bras droit de Shimon Peres, et puis un jour il a dit c'est terminé et il est passé en disant je suis de gauche sans être sioniste définitivement. Moi, mon sentiment, mais c'est une appréciation, je dis pas avoir raison, mon sentiment c'est que dans la mesure où c'est quoi le nœud du conflit, c'est l'illégitimité que chaque camp adresse à l'autre. L'un en disant « vous êtes des colonialistes » et l'autre en disant « des pays arabes, il y en a plein autour, allez voir ailleurs ». C'est ça. Et c'est du jour où on considérera que vous êtes légitime tel que vous êtes, y compris avec ce fardeau colonial que l'on porte sur soi. C'est-à-dire le jour où on pourra nous dire « vous êtes là déjà depuis un siècle, vous avez payé votre droit à l'autochtonie ». Tant qu'on est considéré, en disant que c'est un projet colonial, tant qu'on est considéré comme quelque chose qui est une sorte de d'excroissance étrangère, moi je pense que s'il y a réconciliation, c'est quand on comprendra pourquoi, comme l'a dit Thomas, pourquoi en 1947 ils ont refusé le plan de partage et pourquoi ils pourraient l'accepter demain ou un état binational si les Israéliens et les Palestiniens évoluent vers un état binational. Je ne crois pas, moi, aujourd'hui, à un État binational parce qu'on ne bascule pas comme ça, comme par enchantement, d'une situation d'hostilité à « embrassons-nous, Folleville ». Ça se passe pas comme ça. Ça se passe par quelque chose de graduel. Mais moi, je reconnais, je suis pas un révolutionnaire, je suis un réformiste. Et moi, je dis, donnez-moi 2 États palestiniens côte à côte qui s'entendent bien, qui cessent de faire la guerre. Et après, on peut imaginer, parce que faut bien comprendre, on parle de 25 000 km². 25 000 km², c'est de Montpellier à Nice. C'est ça la Palestine, c'est ça Israël, territoires occupés compris. Laissez-nous nous séparer, oui, c'est vrai, pour mieux trouver ensuite les moyens, pourquoi pas de s'unifier parce que c'est un petit territoire. Mais pensez que ça se passera par le fait que l'un va dire « moi, mon projet national palestinien, je le maintiens, mais vous, votre projet national juif, vous devez vous le liquider ?» Non, il faut le réformer en profondeur, il faut que cette dimension nationaliste et exclusiviste, là je vous suis complètement Thomas, il faut effectivement s'en débarrasser, mais ça ne peut pas passer, me semble-t-il, par une mise en cause du sionisme comme tel, en disant « vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans l'injustice ». Non, ça ne se, je ne crois pas, je ne vois, j'aimerais bien, mais je ne crois pas que ça puisse
mais alors,
évoluer.
Mais alors, que ce soit la mise en cause dont parlait Thomas, ou votre approche plus réformiste, plus gradualiste dont vous parlez, en fait, on voit mal, clairement, le bloc de droite hégémonique faire ce genre de saut ou de pas. Donc, il faudrait, à ce moment-là, retourner à nouveau nos regards vers la gauche, hein, qui fait l'objet de cette question. Et là, je reviens un peu sur la question du déclin, et notamment les causes démographiques, hein, parce que donc j'ai noté cette phrase d'Alain Dikoff qui était venu sur ce plateau il y a deux ans pour parler des élections qu'il y a eues en 2019, et à la revue Moyen-Orient, là, qui le dernier numéro, il dit une véritable alternative de gauche n'existe plus. C'est pas une situation qui est conjoncturelle, c'est structurelle. Il dit, à partir du moment où trois segments, c'est un développement que vous faisiez tout à l'heure, hein, il y a trois segments importants de la société, les juifs venus de l'ex-URSS, les milieux populaires séfarades, les religieux, à partir du moment où ceux-là sont fidèles au Likoud et à d'autres formations de droite, en fait, c'est fini, l'hégémonie conservatrice, elle est actée quasiment dans la démographie. Est-ce que c'est pas ça? Enfin, typiquement en Europe ou en France, on a beaucoup de questions sur la gauche, le déclin de la gauche, etc. On se pose pas la question en des termes aussi brutaux et définitifs, quoi. Alors que là, j'ai l'impression que c'est pour les gens de gauche, en tout cas en Israël, peut-être encore plus déprimant que ce qu'on peut connaître de ce côté-ci de la Méditerranée.
Il faut comprendre que en 48, quand Israël naît, c'est né dans le cadre d'une guerre, dans le cadre d'un conflit. C'est pas le seul État qui est dans le cadre d'une guerre, mais c'est une réalité. Au sein de la gauche israélienne, il y a une citation que j'aime bien reprendre, qui est issue du MAPAM, qui est le parti de la gauche radicale sioniste de 48, qui explique que, en étant créé dans le cadre de cette guerre-là, Israël est contraint, à moins de parvenir à faire la paix, de vivre uniquement avec son épée. Et je pense qu'Israël pourra commencer à être considéré comme autre chose qu'une excroissance étrangère lorsqu'il y aura une volonté au sein d'Israël de davantage être prêt à s'intégrer au Moyen-Orient et d'arrêter d'être considéré comme une espèce d'avant-garde américaine ou en tout cas européenne ou occidentale, pardon, au Moyen-Orient. Israël est un État qui est profondément oriental, je le crois vraiment, sa société est profondément orientale, mais il y a, je pense, une attitude qui dénote davantage dans la région comme étant davantage en conflit avec ses voisins. On pourrait débattre de qui a commencé, etc. Mais je pense en tout cas à l'attitude israélienne depuis très longtemps maintenant, que ce soit durant la guerre au Liban ou avec ses différents voisins, me paraît être davantage belliqueuse et empêche en tout cas qu'il y ait une situation de paix. Là où on peut revenir sur les perspectives, on a une étude qui est parue en février 2019 au sein de l'Institut pour la démocratie en Israël qui montre que parmi les 18-24 ans des juifs israéliens, 69% se dit de droite. On a un constat, à mon avis, là, qui est clair et que je pense qu'on va partager avec Denis Charbit, qui est que le camp juif progressiste est minoritaire en Israël aujourd'hui. Il est minoritaire, il doit faire face à cette minorité-là. Le constat que je pose, moi, c'est un constat, c'est pas un conseil, je suis personne pour conseiller, c'est un constat que je pose. Si cette gauche sioniste souhaite un jour voir l'émergence d'un gouvernement, disons progressiste, ou en tout cas davantage prêt sur leur base à eux à gouverner, il y a, à mon avis, une convergence qui peut être opérée davantage avec cette gauche radicale et peut-être même avec les héritiers de cette gauche anticoloniale. En tout cas, essayer d'avoir une dynamique en tout cas plus commune ou au moins d'apprendre les aspirations, les attentes de cette population palestinienne d'Israël. C'est peut-être une nouvelle utopie, mais à mon avis, c'est le seul moyen pour ne pas être contraint, comme ils le font depuis maintenant quelques semaines, la gauche sioniste israélienne, à négocier avec le centre et avec l'extrême droite israélienne, quelqu'un comme Naftali Bennett, par exemple, pour faire un gouvernement ensemble, contre Netanyahou.
Si j'interprète les choses, c'est qu'en fait, ils préserveraient peut-être mieux l'avenir en ayant des alliances et un projet.
Je ne sais pas. Je dis juste que c'est un constat que je pose par rapport aux dynamiques politiques. On a eu, il y a un an, une liste unie qui, évidemment, en son sein, avait des islamistes, avait des gens qui n'étaient pas forcément de gauche, mais leur programme politique fondamental, mené par le communiste arabe Ayman Odeh, était de dire « Le camp juif progressiste est minoritaire. Nous, ce qu'on veut pas au gouvernement, c'est des extrémistes de droite et des gens ultranationalistes, etc. Donc, on va proposer une alliance au centre-gauche israélien pour former un gouvernement et voir comment ça peut se passer. » Les négociations ont eu lieu. Le bloc s'était à peu près maintenu. Il y a eu des divergences, c'est une réalité. Le bloc s'est à peu près maintenu. Ce qui a en tout cas loupé, c'est qu'au moment où les négociations auraient pu aller vers une acceptation, etc., eh bien, vous avez eu au sein du centre-gauche des députés qui n'étaient clairement pas de gauche, et je pense même pas du centre, qui ont expliqué qu'ils ne voulaient pas soutenir un gouvernement israélien qui n'avait pas de majorité juive à la Knesset. Ça aussi, c'est une réalité israélienne. Mais si on reprend les négociations, c'est ça qui est intéressant, où on avait évidemment des gens islamistes, nationalistes, etc. Les revendications de cette liste unie pour entrer dans un gouvernement et soutenir un gouvernement, c'était pas des choses qui me paraissent être fondamentalement réactionnaires. La fin de la destruction des maisons palestiniennes qui sont construites illégalement parce qu'ils n'ont pas de permis de construire. La révision de la loi État-nation du peuple juif. Davantage de droits et d'égalité pour cette population-là. C'est pas des choses qui sont réactionnaires. Et c'est là, en fait, où on revient à la base. C'est qu'il n'y a pas une situation forcément de nationalisme. Il y a un nationalisme qui a été étouffé par un projet colonial qui est évidemment émancipateur pour les Juifs, je l'entends évidemment, mais qui est également colonial et qui fait que dans cette situation-là, elle a tellement étouffé les aspirations d'un peuple entier que du coup, ce peuple-là, lorsqu'il revendique ses droits nationaux, c'est pas un nationalisme qui va être exclusif, c'est le droit à au moins l'égalité avec les autres. Mmh. Et là, on a, à mon avis, un cœur de cible.
Alors, Denis Cherby, du coup, je vous pose aussi cette question de, au fond, voilà, stratégie, comment on agit quand on sait que la démographie joue en notre défaveur?
Alors, vous savez, moi, ma formation, elle est politiste, elle n'est pas sociologique. Ouais. Et donc, j'ai jamais considéré que la politique, c'est la traduction de la sociologie par d'autres moyens. Voilà.
Certes, donc, mais disons qu'il y a des conditions voilà, plus ou moins favorables, on va dire
oui,
ça comme
alors,
ça.
Alors, les Juifs orientaux ne votent pas, on est en train de le montrer, de le démontrer, votent de moins en moins Likoud. Contrairement à ce qu'on croit. Alors, bien sûr, il faut des alliances. Et là, alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord. L'avenir de la gauche sioniste, travailliste, Meretz, c'est effectivement de faire ce pas essentiel de la légitimisation des formations politiques arabes, quand bien même elles ne sont pas sionistes, en disant ce sont non seulement des acteurs légitimes dans la représentation au Parlement, mais des acteurs légitimes au gouvernement. Et ça, et voilà, et ça c'est la force, encore une fois, là je vais me faire le 18 de Tocqueville cette fois-ci, c'est ça la force de la démocratie, non pas comme régime, mais comme idée fondée sur l'idée de l'égalité. Je vais vous dire quelque chose, et puisque votre livre retrace l'histoire d'Israël. Le pouvoir était entre les mains de la gauche, ni la droite, ni les orthodoxes, ni les arabes. Dans les années 60, c'est la droite qui est rentrée au pouvoir. Dans les années 80-90, c'est les orthodoxes. Eh bien, pour moi, c'est inévitable. Un jour, et plus tôt sera le mieux, on est bien d'accord là-dessus, ce sera également le tour des Arabes israéliens. Et là, pour le coup, je vais faire un peu de sociologie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la classe la plus mobile au sein de la population arabe israélienne, c'est une classe moyenne. Écoutez, avant-hier, on va quand même donner un peu de bonnes nouvelles, la vice-présidente de l'Université hébraïque de Jérusalem, et c'est autonome, hein, c'est une institution, c'est une des 30 meilleures universités du monde, est une palestinienne d'Israël. Et ça, je veux dire, Netanyahou peut, on peut parler de la droitisation, on peut parler de tout ce qu'on veut, ces dynamiques-là, elles existent, elles sont fortes. Vous parliez Israël, corps étranger, mais moi je suis de ceux qui pensent que les accords d'Abraham peuvent avoir une conséquence psychologique sur les Israéliens juifs, dans la mesure où ils pourront apprendre enfin, et se dire enfin, qu'il n'y a plus un monde arabe ligué contre eux. Okay, on a la paix avec l'Égypte, on a la paix avec la Jordanie, peut-être demain avec l'Arabie Saoudite. Alors après, on dit oui, mais c'est pas des modèles de démocratie. J'en doute pas. Mais c'est plus le corps étranger. On en a maintenant avec le Maroc. Dire Israël est un corps étranger. Attendez là, ça bouge beaucoup. Et vous l'avez dit, la musique israélienne aujourd'hui de variété. Désolé de faire, de passer à un autre niveau.
Non, c'est important,
c'est de la musique orientale. Et vous le savez, mais c'est très important. Et donc. Il y a une dynamique. Alors, attention, cette dynamique, elle peut être aussi nationaliste. Je dis pas qu'il n'y a pas des régressions. On a un parti fasciste, suprématiste à la Knesset aujourd'hui. Donc, c'est pas que je ferme les yeux sur les choses qui ne vont pas. Mais, encore une fois, même si, ça passera par de nouvelles alliances, par un nouveau projet, regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Moi, je ne crois pas en une histoire fixiste. Mais non, mais je veux dire, on était dans le Trumpisme, on passe avec un Biden qui nous parle de climat et qui fait des réformes économiques extraordinaires. Pourquoi ça ne pourrait pas arriver en Israël ? Ça peut arriver également parce que des nouvelles forces existent. Il faut trouver la bonne conjoncture. Il faut trouver aussi le leader politique. C'est aussi trouver le bon leader. effectivement, la gauche n'est pas capable aujourd'hui d'en produire. Elle pourra le trouver demain. Encore une fois, je plaide pour l'autonomie du politique malgré tout.
Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ce plaidoyer-là et sur, en tout cas sur cette évocation que vous avez faite tous les deux de dynamiques existantes qui, voilà, qui sont pas forcément celles du déclin, qui sont notre point de départ. Je vous remercie tous les deux pour ce débat à distance. Merci d'avoir joué le jeu depuis Israël, Denis Charmy.
Merci à Mediapart.
Merci Thomas Vescovi pour votre livre, voilà, que j'ai avec moi, que je remonte. Voilà, c'est aux éditions La Découverte. Et puis, pour ceux qui veulent lire du Denis Charmy, voilà, il y a plein de ressources également en ligne et en différents ouvrages. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous renvoie au site de Mediapart pour tous les autres grands entretiens.